Reportages, débats, interviews, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour à tous et bienvenue dans le mag du samedi sur Cocktail FM, à l'occasion de la première fête des tourbières qui commence ce week-end. La rédaction vous invite à une découverte auditive de ce milieu passionnant avec deux spécialistes passionnés, Jean-Christophe Raguet et Cyril Gérard du Conservatoire des sites naturels Lorrain. Qu'est-ce qu'une tourbière et qui trouve-t-on? Réponse avec nos invités au micro de Jean-Christophe Givor.
Jean-Christophe Raguet, bonjour. Est-ce que vous pouvez me définir votre fonction, votre métier?
Je suis chargé d'études au Conservatoire des sites Lorrain, qui est une association sans but lucratif qui travaille sur la connaissance, la protection, la gestion et la pédagogie des milieux naturels. Ça fait quand même près de 30 ans qu'existe le Conservatoire des sites. Et je pense qu'on a fait un excellent travail avec des partenaires, bien sûr, État, Europe, région, département, agence de l'eau.
Cyril Gérard, bonjour.
Bonjour. Donc oui, moi je suis aussi technicien de terrain donc au Conservatoire et aussi animateur. C'est un petit peu pour faire connaître nos tourbières qu'on va organiser la fête des tourbières prochainement.
Quelque chose qui attire immédiatement l'œil, c'est l'affiche qui promeut cette fête des tourbières. Donc c'est quelque chose de très coloré, on y voit des gouttelettes, c'est assez mystérieux. Qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est notre collègue qui travaille à la mission pédagogie, donc aux communications du Conservatoire des sites Lorrain. Et vous avez une macrophotographie d'un rossolis, donc une rosera si vous préférez, avec ses poils glanduleux qui sécrètent une glu chargée d'enzymes pour la capture et la digestion des petits insectes.
En fait, les tourbières, ce qui implique que ces tourbières ont une importance dans notre patrimoine vosgien, sont très présentes. Alors Jean-Christophe Raguet, qu'est-ce que c'est qu'une tourbière?
Une tourbière, c'est un gisement de tourbe, si on peut dire, mais c'est surtout un habitat qui sélectionne des communautés végétales et animales tout à fait particulières. Bon, certaines sont des héritières du tardis glaciaire, des reliques glaciaires, si vous préférez, même si le terme est un tout petit peu abusif, et même si toutes les espèces ne sont pas héritées d'il y a 8000 ans.
Oui, il y a eu une évolution tout de même.
Bien sûr.
C'est la tourbe en elle-même, c'est quoi?
La tourbe, c'est une roche minérale, c'est-à-dire qu'au sens géologique du terme, une roche n'est pas forcément solide. Et c'est une accumulation de matière organique dans des conditions biochimiques qui n'a pas permis sa décomposition.
C'est pas du futur pétrole?
Ce n'est pas du futur pétrole, non. Le pétrole, c'est des boues marines. Et par contre, les tourbes fossiles, notamment celles du tertiaire, ont pu donner des lignites, comme celles qui sont exploitées sur des surfaces considérables dans le nord de l'Allemagne.
Et ces tourbières, on en dénombre combien? Où sont-elles dans les Hauts-de-Vosges?
On dénombre un peu plus de 150 toponymes de tourbières toujours actives. Sachant qu'au moins le double est préexisté il y a un siècle. Beaucoup de zones tourbeuses ont disparu, soit du fait du drainage pour la mise en valeur agricole et pastorale, soit du fait des villes. Par exemple, à Gérardmer, vous aviez une tourbière en face du Cocktail FM, sur la rive gauche de l'actuel Jamin, qui ne passait pas exactement au même endroit. Et là, vous avez plusieurs mètres de tourbe sur les jardins.
La tourbière se caractérise par le fait que c'est un milieu humide?
Si la tourbe s'accumule, c'est parce qu'effectivement, on manque d'oxygène du fait d'eau stagnante, retenue par les fibres de la tourbe, qui empêchent les échanges avec l'atmosphère. Et c'est pour ça que les décomposeurs, les invertébrés, les champignons, les bactéries, ne peuvent pas faire leur travail habituel. Si la litière dans les forêts n'était pas décomposée par ces agents biologiques, vous auriez dans les forêts des mètres et des mètres de litière non décomposée, qui est plus que les arbres.
Qui formerait finalement de la tourbe.
Et qui formerait quelque chose qui se rapprocherait de la tourbe, un sol organique, oui. Uh-huh. Donc ce sont les conditions biochimiques qui permettent cette accumulation de tourbe. Ces tourbières, ce n'est pas seulement intéressant pour les naturalistes. Hein. Les anciens Jérômois et Vosgiens, de façon générale, trouvaient beaucoup d'intérêt aux tourbières. Bon, d'une part, ils ont battu contre elles, bien sûr. Ils les ont drainées, amendées, incendiées, creusées. Ils ont exploité la tourbe, notamment au Gérardmer. Hein. Dans les tourbières communales du Haut-de-Merelle, col de Sapois, Bayard. Grand étang, on avait des registres d'exploitation très bien tenus à partir de 1870. Ils sont conservés à la médiathèque. Et chaque foyer, entre guillemets, avait droit à 4 stères de tourbe. C'était une forme d'affouage, en fait, pour compléter les ressources en bois locales. C'était le charbon des pauvres, effectivement. D'après les interviews qu'on a pu avoir, c'était effectivement un combustible de très mauvaise qualité. Et par exemple, au Grand Étang, pendant l'occupation, il a été largement exploité pour alimenter les chaudières du textile. Et puis aussi, comme au Bayard, faire du coke de tourbe. On faisait du coke de tourbe pour la scierie, pour la tréfilerie. Les tourbiers pestaient contre la suie qui obturait tous les conduits, et notamment les petites chaudières du Decauville qui fonctionnaient au Grand Étang. Enfin, il n'empêche qu'il y a encore quelques années, il y avait des Vosgiens, notamment Autoli, M. Marin, qui s'amusaient pour des raisons un peu folkloriques à se chauffer à la tourbe. En début de belle saison, mais très tôt, dès le mois de mars à avril, dès que la neige avait fondu, parce qu'il fallait penser au temps du séchage, les tourbiers, c'était leur nom, avec des outils très simples, des louchets, c'est-à-dire simplement une bêche à fer long, découpaient des briquettes, à peu près la dimension d'une brique classique,
de construction,
les empilaient en meules pour les faire sécher, c'était très aéré, ou les mettaient sur des séchoirs abrités. Ces briques étaient utilisées soit dans un cadre familial pour chauffer les maisons en hiver, ça conservait très bien la braise, soit pour alimenter les foyers pendant l'occupation, puisqu'il y avait une pénurie de matières premières.
Alors finalement, l'exploitation des tourbières, c'est peut-être aussi ce qui a sauvé certaines d'entre elles.
C'est beaucoup dire. Bon, si on fait le bilan, il est certain qu'une tourbière exploitée n'est plus une tourbière naturelle. Elle perd beaucoup de son intérêt, notamment de ses archives en termes de pollen fossile, de microfossiles, de charbon fossile et autres archives paléontologiques. Par contre, il faut admettre que dans certaines d'entre elles, comme la tourbière des Charmes, qui est maintenant une réserve naturelle régionale, ça a permis de diversifier les habitats. Est-ce que les fosses de tourbage recréent des milieux aquatiques ou semi-aquatiques ou des milieux pionniers de tourbe nue qui augmentent le nombre en fait d'espèces, parce que ça crée des habitats totalement différents. Donc il faut nuancer effectivement. Cette exploitation d'un tout fait partie de notre héritage, on ne le renie pas. Donc les outils des tourbiers, la façon dont ils travaillaient, c'est quelque chose qu'on va essayer de reconstituer à l'occasion de la fête de la tourbe, comme ça peut se faire également à Frasnes, en Franche-Comté.
Giant steps are what you take.
le magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Dans les Hauts-de-Vosges, les noms de villages qui finissent par fin, comme les Pleins-Fins, Ronds-Fins, ne manquent pas. Il y a aussi Charmes et ils ont tous en commun une toponymie. Explication avec Jean-Christophe Raguet.
Alors les fins, suivant les vallées, hein, ça viendrait du vieux germanique, fagna, qui désigne tout ce qui est boueux, tourbeux, limoneux. Donc au départ, c'est assez péjoratif. Et on retrouve ça, c'est intéressant, parce qu'on retrouve ça en Belgique, avec les hautes fagnes, et même en Allemagne, avec le hohes fen. Et quand vous allez du côté de la Franche-Comté, vous avez les sagnes, les saignes, les seignoles, etc. Nos ancêtres différenciaient très bien les tourbières hautes, celles qui ont plusieurs mètres de tourbe et qui sont exploitables, qu'ils appelaient des ronds-fins, parce qu'elles étaient souvent rondes, effectivement. Et ils différenciaient des pleins-fins, qui sont des tourbières basses. En fait, ce seraient plutôt des prairies humides, avec des sphaignes, donc avec des mousses. Si vous regardez un petit peu les anciens cadastres, ils sont consultables sur Internet très facilement, sur le site de Géoportail, vous verrez d'innombrables toponymes qui font référence à ces fins, ces feignes.
Pourquoi Charmes, en revanche ?
Par contre, Charmes, on n'a pas compris quelle était l'origine. Et les Charmes désignent des tourbières de grandes étendues sur les sommets. Ça n'a aucun rapport avec les arbres Charmes. C'est peut-être une déformation de chaume. On s'interroge sur l'étymologie, en fait. Vous avez là la Charme du Fény, vous en avez bien d'autres autour de Charmes.
Et... Fin, feigne, et vous me parliez donc d'un synonyme lointain de boue. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à ce terme un peu désuet pour désigner la boue qui est fange.
Effectivement, ça fait partie du même champ lexical, probablement, oui. Il y a également phonie, puis d'autres. Oui.
L'eau dans les Vosges est quelque chose d'extrêmement important. Elle est filtrée, je pense, par la tourbe. Et j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu.
Bien sûr. Bah, déjà, une tourbière s'installe là où il y a un bilan d'eau positif. C'est-à-dire qu'il en arrive plus qu'il n'en repart au niveau des effluents, moins ce qui s'évapore. Et donc, elles vont s'installer préférentiellement dans les dépressions. Ça peut être les deltas dans les lacs glaciaires, comme à Gérardmer. Il y en a plus beaucoup du côté de Rambertchamp, un petit peu. À Longemer, du côté du ruisseau des Plombes, du ruisseau Saint-Jacques, plutôt. À Retournemer, côté est. Mais surtout à Lichepar et Machet, où il y a de superbes tourbières tremblantes qui sont en train de quasiment faire disparaître le lac préexistant. En fait, on a un certain nombre de tourbières dans le massif vosgien qui ont totalement fait disparaître le lac qui existait au moment du départ des glaciers.
On pourrait presque dire qu'elles l'ont bu, ce lac.
Non seulement elles l'ont bu, mais elles ont continué à croître au-dessus de la surface de l'ancien lac. La plupart du temps, il reste des poches d'eau, et des fossiles de lac, si vous voulez, qui sont coupés de l'atmosphère, qui subsistent sous la tourbe. Un des tourbiers qui avait travaillé pendant l'occupation au Grand Étang, Yon-Yon, on l'appelait, qui racontait en s'amusant beaucoup que le contremaître avait une fois disparu à travers la tourbe dans une de ses poches d'eau relictuelle.
Il y a réchappé, ce contremaître ?
Oui, je vous rassure, il en a réchappé. Bon, les tourbières sont dangereuses, effectivement, si je peux faire une parenthèse, mais plutôt pour ceux qui n'aient pas ces quatre pattes que pour les bipèdes. Hein. Alors, il y a bien eu, pendant l'hiver 1940, un pêcheur qui a été retrouvé sous la tourbière tremblante du Lichepar. Par contre, tous les ans, il y a des animaux, encore l'année dernière au col de Sapois, des chevreuils, cerfs, voire des sangliers qui essaient d'attraper les charognes précédents qui se perdent dans les fosses de tourbage. À l'époque où la tourbière du Tannay était quelquefois traversée par un moutonnier, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, il perdait de temps en temps des brebis.
Il me semble me rappeler que la tourbe est aussi un extraordinaire conservateur du fait de l'absence d'oxygène.
Effectivement, vous avez raison, non seulement du fait de la présence d'oxygène, mais également de substances chimiques, des acides organiques, des sphagnols, hein, qui sont libérés par les mousses, qui préservent de la décomposition. Tout le monde a entendu parler des zones de la tourbe dans la presqu'île du Jutland au Danemark, mais on en a trouvé également dans les tourbières de Hollande, d'Allemagne, le mégacéros, qui est un cerf préhistorique, dans les tourbières irlandaises. Ce sont des dizaines de milliers de mégacéros dont on a trouvé le squelette ou quelquefois des parties bien conservées dans les tourbières irlandaises.
Encore rien dans les Vosges ?
Alors dans les Vosges, les conditions sont plus défavorables à la conservation des grands fossiles.
Hein. Alors là, on a parlé du système hydraulique. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de faune et de flore. Alors décrivez-moi la tourbière type, si tant est qu'il y en ait dans les Hauts-de-Vosges.
Il y a plusieurs types de tourbières. Donc on a évoqué rapidement les tourbières lacustres, mais vous avez également des tourbières hautes qui proviennent parfois de ces tourbières. C'est-à-dire qu'une fois que le radeau tremblant a touché le fond par accumulation progressive de tourbe, il va continuer à s'épaissir au-dessus du niveau de l'eau et quelquefois à plusieurs mètres au-dessus du niveau de la nappe. Il va entraîner la nappe avec lui par tout simplement dans les fibres. La nappe va monter, on va avoir une nappe perchée.
D'accord. C'est l'effet éponge, hein, un peu.
C'est un effet d'éponge. Et par exemple, la tourbière de l'Abîme, au Toli, ils ont exploité pas loin de plus de 10 mètres de tourbe.
Qu'est-ce qui pousse ? Qu'est-ce qui vit dans une tourbière ?
Des plantes spécialisées. Déjà, ce sont des biotopes froids. Lorsque vous passez au moment des changements de saison du côté du Bayard, hein, sur la DK-117, les légers remoirs ont remarqué les brouillards persistants, et voire le verglas. En fait, ce sont des trous à geler, entre guillemets, parce que dans les conditions anticycloniques, l'air froid s'accumule. Ce sont également des habitats humides. Et paradoxalement, ce sont des habitats qui ont du mal à rendre l'eau qu'elles ont absorbée, parce qu'elle est physiquement, chimiquement liée au colloïde, pardonnez-moi d'être un peu technique, au colloïde de la tourbe. Ce qui fait que les plantes ont du mal, entre guillemets, à sucer l'eau, ce qui fait que, paradoxalement, les plantes ont des adaptations physiologiques. C'est le cas des éricacées, donc la calune ou petite bruyère, surtout l'andromède, qui ont des feuilles réduites, enroulées, qui minimisent leur perte en eau par évaporation. Okay. Ce sont également des plantes qui supportent des faibles quantités de nutriments, notamment de calcium. Les tourbières sont très pauvres en calcium, ce qui favorise bien sûr toutes les plantes apparentées aux rhododendrons qui sont vraiment adaptées au manque de calcium. Ce sont des plantes qui supportent l'acidité, le froid. Enfin, c'est ce qui permet d'ailleurs à ces plantes de subsister sans la concurrence d'espèces plus prolifiques.
La drosera, elle, alors, du coup, elle se nourrit, pour ainsi dire, de ce qui passe à sa portée.
Donc il y a beaucoup de plantes insectivores, entre guillemets, qui vont se réfugier dans les tourbières. Elles sont l'abri de la concurrence. Les droseras, c'est minuscule. Hein, c'est, bon, les plus petites, c'était une pièce de 5 francs, les anciennes pièces de 5 francs. Les plus grosses, c'est à peu près une tasse d'un café. Elles ont trouvé une stratégie pour se procurer les nutriments qui leur manquent, notamment l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, en capturant des insectes. Elles fonctionnent comme un piège à glu. Et les poils glanduleux, lorsqu'ils sont excités par le contact chimique avec la cuticule, donc avec la carapace de l'insecte, se referment tout doucement. Ça prend du temps. Moi, j'ai fait des photos tous les quarts d'heure. On voit très bien les différentes étapes du mouvement. Et la feuille s'enroule autour de la victime pantelante. Je vous ai dit, c'est fantastique. Hein. Il y a d'autres espèces chez nous, comme les grassettes, qui fonctionnent comme un papier attrape-mouche, ou encore les utriculaires qui poussent dans l'eau et qui fonctionnent comme des petits pièges à souris. Quand vous touchez la passe, ça déclenche l'ouverture de la vésicule et les enzymes digestives, pratiquement les mêmes que celles de votre tube digestif, sont libérées pour digérer les bestioles. On a pu mettre en évidence avec des radioisotopes qu'il y a une véritable absorption, donc c'est bien non seulement une digestion chimique, mais une absorption des acides gras et acides aminés par la paroi des feuilles spécialisées.
Alors, donc c'est un organisme extraordinaire, là. Hein.
Mais au XVIIIe siècle, il y avait des naturalistes qui avaient tiré l'attention sur ce phénomène, et on s'est moqué d'eux. À l'époque où la Bible faisait référence, c'était inconcevable que l'ordre naturel des choses, entre guillemets, ce soit le lapin qui se fasse manger par la salade et non pas l'inverse.
Combien de fois faut-il vous le dire avec style ? Je ne veux pas sortir au baron. Non, 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 je ne veux pas prendre l'air. Non, non, non. Je ne veux pas boire un verre. Non, 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 non. Je ne veux pas l'oublier. Non, 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 non. Je ne veux pas m'en passer. Je jure, t'as le mal, y'a pas de mal à ça. Venez manger que dalle, écoutez Barbara. Je pense qu'il reviendra. Non, je ne veux pas faire un tour. Ça sert de faire un tour. Non, je ne veux pas me défaire de ce si bel enfer qui commence à me plaire. Je ne veux pas quitter mon salon. Non, 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 je ne veux pas prendre l'air. Non, 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 je ne veux pas boire un verre. Reviendra. ça sert d'aller mieux. Non, je ne veux pas m'habiller, non plus me maquiller. Laissez-moi m'ennuyer, arrêtez avec vos questions. Non, 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 je ne veux pas prendre l'air. Non, 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 je ne veux pas boire un verre. Non, 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 je ne veux pas l'oublier. Non, 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 je ne veux pas m'en passer.
Le magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Entre la description du milieu naturel qu'est la tourbière, le rôle de l'eau, la paléontologie, la flore, la faune, son aspect pharmacologique, tout cela on le retrouvera dans les différentes démonstrations, événements, conférences liées à cette première fête de la tourbière. Et qui de mieux pour en parler que celui qui, avec Jean-Christophe Raguet, a organisé cette première fête des tourbières qui commence ce matin. Cyril Gérard.
Le samedi, c'est l'ouverture officielle donc, de cette fête des tourbières, donc avec un stand qui sera présent sur le parking du Grand Étang, donc qui est une tourbière protégée donc, par le conservatoire au Baru, avec un stand justement où on va proposer différentes activités, des sorties, des animations, mais aussi une découverte sensorielle voilà, des tourbières, donc avec du toucher, du goût, de l'odorat.
Ah tiens, j'aimerais bien que vous essayiez un exercice radio, alors là vous avez peut-être besoin de tous les deux, je ne sais pas. C'est l'odeur très caractéristique de la tourbière, comment pourrait-on la décrire?
Ça c'est un challenge. On peut au moins décrire l'odeur des prés humides, qui est caractérisée par la présence de la fouve odorante, et qui est une graminée qui a une odeur de coumarine. La coumarine, c'est l'odeur de l'Amsterdamer. Hein, on en met dans ce tabac hollandais. Par contre, les tourbières, elles fabriquent pas mal de gaz, notamment du méthane. C'est pas une odeur désagréable, donc c'est plutôt l'odeur des sphaignes. Mais c'est une odeur assez indescriptible. Et lorsqu'il fait très chaud sur le tremblant de Nishpar, par exemple, c'est une odeur tiède, notamment par temps orageux, une odeur moussue.
Bravo, hein, c'est très radiophonique quand même. Hein, c'est... voilà pour la découverte sensorielle. Ça, c'est sur la tourbière du Grand Étang, hein, exclusivement. Vous allez aussi vous déplacer à Nérel et Sapois.
Voilà, ce sont les deux autres tourbières donc, qui sont protégées donc, par le conservatoire. Donc là, ça sera dimanche après-midi. Petite randonnée justement entre la tourbière de Nérel et la tourbière de Sapois, avec une petite halte donc, à l'ancienne école du Fény, où justement on a une petite exposition donc, qui a été prêtée par le pôle relais tourbière sur les métiers justement de tourbier, sur l'utilisation de la tourbe, utilisée aussi de manière horticole hein, la tourbe, faut pas l'oublier.
Et oui, les petits godets qui nous servent à repiquer nos différentes plantes, hein, c'est ça?
L'invention du godet horticole, c'est Jérôme. Moi. L'exploitation du Grand Étang après l'occupation a été axée sur la fabrication des godets horticoles, qui est une invention d'un ingénieur sénat, je crois. Hein, c'était une grande famille de Gérardmer, du textile. Et maintenant, c'est un système qui a diffusé à l'échelle mondiale. Oui. C'est parfaitement biodégradable, malheureusement, ça contribue en partie à la destruction de tourbières hautes. Oui.
Ah, c'est la biodégradation des tourbières aussi.
D'ailleurs, dans le cas de nos animaux, on évoquera les substituts de la tourbe qui permettent d'avoir des composts et des godets qui n'utilisent pas la tourbe mais des produits de substitution.
La suite du programme donc de ce dimanche, donc, alors, une très très jolie balade entre Mérel et Sapois, ça représente combien de temps d'ailleurs?
En balade ça dure une heure, mais il y aura une description justement sur les deux tourbières, comme petite animation. Et on va aussi parler de la gestion des tourbières, parce que la gestion est confiée au conservatoire. Et vu qu'elles ont été exploitées, on a justement recréé des milieux favorables pour certaines espèces, parce que souvent elles ont été drainées. Donc il va falloir justement faire des petits ouvrages hydrauliques, des petits barrages pour maintenir un petit peu l'humidité sur ces tourbières qui avaient été drainées. Donc on va voir les différents travaux qui sont organisés donc, par le conservatoire pour maintenir ces tourbières en meilleur état pour l'habitat, quoi, les espèces.
Est-ce qu'on peut dire que les tourbières sont un milieu dont la fragilité ne cesse d'augmenter? Enfin, en gros, est-ce que c'est un milieu menacé ou finalement sa survie est assurée?
À peu près 50% des tourbières de Lorraine et des Vosges font l'objet d'une protection réglementaire. Et donc elles ne sont plus menacées par des interventions humaines locales. Par contre, elles sont toujours menacées par les changements globaux et notamment par la pollution atmosphérique. On considère que c'est près de 10 kg d'azote par hectare par an et qui tombe du fait de la pollution industrielle et des moteurs à explosion. C'est considérable, c'est à peu près le quart de ce qu'on met sur un champ. Il y a également l'hypothèse quand même du réchauffement global et qui aura forcément des conséquences sur le fonctionnement des tourbières.
Évolution, pas forcément extinction, c'est un peu
non,
comme ça
n'imaginez pas que les tourbières soient quelque chose d'aussi fragile hein, et qu'elles sont destinées à disparaître de façon inéluctable et transformées en forêt. On a tout près de chez nous la tourbière de la Grande Pile, c'est du côté Haute-Saône du massif vosgien. On y a trouvé 140 000 ans d'archives de pollen et autres microfossiles. Elle a survécu à la dernière glaciation, le Wurm, qui a duré quand même dans les 60 000 ans au moins. Elle existait déjà au précédent interstat glaciaire, c'est-à-dire une période chaude à peu près équivalente à la nôtre aujourd'hui. Donc vous imaginez quand même la capacité de persévérance. Si la plupart des tourbières vosgiennes sont jeunes, entre guillemets, si la plupart ont au moins de 8000 ans, c'est parce que le passage des glaciers les a rabotés. Il a éliminé les tourbières qui s'étaient formées au précédent interstat glaciaire. Et par exemple, il faut imaginer que le lac de Retourne-en-Mer a été plusieurs fois occupé par le glacier, surcreusé, et qu'à chaque fois la tourbière et les sédiments étaient emmenés. Actuellement, il est en train de se combler par les matériaux de la Vologne, par la tourbière qui est en train de s'installer sur le delta de la Vologne. Toutes les tourbières ne sont pas extrêmement anciennes. Et j'en vois se former dans des carrières comme la carrière du Rocher, qui fonctionnait encore il y a un demi-siècle.
Merci beaucoup, messieurs, de toutes ces explications. Et puis, je vous souhaite plein de monde.
C'était un plaisir. On peut nous contacter à l'antenne Vosges du Conservatoire des Sites-Lorrains, soit en passant nous voir. On habite 58 boulevard de Grange, soit en téléphonant au 03 29 60 91 deux fois.
Et le message est donc passé.
Voilà, c'est tout pour le MAC du samedi consacré à cette fête des tourbières, première édition qui commence ce week-end. Avec notamment cet après-midi une animation nature sur la tourbière du Grand Étang. Rendez-vous au parking de la tourbière du Grand Étang Baru cet après-midi où vous attendra notamment Cyril Gérard qui était l'un de nos invités ce matin. Autre animation nature demain dimanche après-midi à 14h30 sur la tourbière de Merelle et Sapoin. Rendez-vous pour le départ également sur le parking du Grand Étang Baru. Une conférence diaporama sur les plantes médicinales des tourbières sera proposée au foyer bar de la MCL jeudi prochain 10 juin à 20h30 et puis samedi 12 juin il y aura une nouvelle animation nature sur la flore de la tourbière du Grand Étang. Des expos photos également à découvrir, photographies inédites des tourbières et ouvrages sur le site de l'école du Fény, exposition des photographies de Vincent et Michel Munier à l'office de tourisme de Gérardmer et puis approche artistique des tourbières avec Eva Ledecky et des élèves du collège de Gérardmer et du collège du Touly. C'est à l'MC de Gérardmer actuellement et jusqu'au 13 juin prochain. D'autres informations sur Cocktail FM, c'est dans un petit instant. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien de ce soleil.